Bonjour à toutes et à tous. Alors, autre ambiance, pas forcément musicale, mais en tout cas, nouvelle thématique. Donc, je suis Florence Alanouf, directrice de la valorisation de l'ENSIMB. Nous, à l'issue de cette journée, pour parler dans ce petit auditorium de la BPI de désinformation. Nous avons abordé quelques grands enjeux des bibliothèques depuis le début de cette journée. Cette question de la désinformation, elle concerne les professionnels des bibliothèques et de la documentation. Et nous allons essayer de décrypter, d'analyser les mécaniques de la désinformation, ces processus, les processus de la désinformation. Donc la désinformation prend des formes différentes. Elle procède d'un principe toujours le même, c'est-à-dire que la diffusion d'une fausse information, plus ou moins construite, plus ou moins complexe, avec l'intention à chaque fois de nuire, l'intention de contrôler, l'intention de manipuler. Et la désinformation est là, plus que jamais, aujourd'hui, notamment avec l'apparition de nouveaux outils d'intelligence artificielle, ce qu'on appelle l'IA générative. Nous voilà plongés dans un flux qui semble inépuisable d'informations et de désinformations. Et cette thématique de la désinformation a été choisie par la revue Balisage. Donc le numéro 7 et le numéro 8 de la revue Balisage, c'est la revue de la recherche de l'ENSIMB. Nathalie Marcerou-Ramel en parlait lors de son introduction. C'est une revue qui est accessible sur la plateforme Open Edition, donc Open Edition Journals. Donc vous pouvez tout à fait la consulter et la lire. Thématique est véritable fil conducteur de cette année, enfin des deux derniers numéros, le 7 et le 8, et qui témoigne l'engagement de l'ENSIMB sur ce sujet et de ses chercheurs en particulier. Alors, pour en discuter, nous avions prévu un échange, en réalité, entre Suzanne Kovacs, qui est professeure en sciences de l'information et de la communication à l'ENSIMB et qui est co-coordinatrice de ce numéro, avec Stéphane Lebras, historien à l'Université Clermont-Auvergne, et Djibril Diakaté, de l'École de bibliothécaires, archivistes et documentalistes EBAD au Sénégal. Et malheureusement, Suzanne Kovacs ne peut pas être présente aujourd'hui, elle est souffrante. Donc ce que nous avions pensé être un dialogue entre deux enseignants-chercheurs qui avaient dialogué lors de la coordination de ce numéro ne peut être qu'un entretien du coup avec Christophe Chuet, qui est maître de conférences en humanité numérique, littérature, histoire du livre. C'est très complet, à l'Université de Bretagne Sud. Dans vos fonctions, donc merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Merci beaucoup de vous prêter au jeu, finalement pas du dialogue, mais de l'entretien en tant que tel. Dans vos fonctions antérieures, vous avez enseigné la littérature en Suisse, à l'Université de Fribourg, aux États-Unis, à l'Université de Yale, et vous travaillez sur les médias, le marketing, l'information au XVIIe siècle. Ainsi que sur l'édition numérique, les évolutions qu'elle provoque et les réflexes culturels qu'elle révèle. Alors, nous avions prévu de parler de la revue Balisage avec Suzanne Kovacs et nous avons un petit changement en tant que tel, mais nous allons l'aborder d'une autre façon finalement. Les apports complémentaires de la revue, donc du numéro 7 et du numéro 8, c'était le numéro 7 parlait notamment des acteurs de la désinformation. La numéro 8 était complémentaire et évoquait le contexte politique de la construction de ce processus de désinformation. Alors, vous avez publié justement dans cette revue Balisage numéro 8 un article qui s'appelle « Désinformer pour mieux régner ». Mais avant de parler de cet article, je voudrais que vous nous emmeniez dans votre domaine de spécialité, dans le temps de votre spécialité qui est d'abord, en fait, en premier lieu, le XVIIe siècle. Et vous avez une approche du XVIIe siècle qui n'est pas tout à fait celle que l'on attend, en fait, en réalité, même en littérature, parce que vous avez notamment, vous êtes l'auteur d'une thèse en littérature, à Paris 4, autour de Jean Donneau de Visé, Fripier du Parnasse. Et vous avez également écrit, enfin co-écrit aux éditions Les Arènes, l'Atlas Molière avec Clara De Alberto et Jules Grandin. Alors je voudrais que vous nous emmeniez dans ce XVIIe siècle, pour que vous nous parliez ensuite de la désinformation, mais pour qu'on comprenne mieux votre approche. Vous vous intéressez à Donaud de Visée, mais en fait, Donaud de Visée, c'est un des premiers journalistes, c'est le fondateur, en quelque sorte, du journalisme, avec la fondation du Mercure Galant. Donc voilà, si vous pouvez nous en parler un petit peu.
Mais avec plaisir, et puis merci beaucoup de cette invitation vraiment qui m'honore, qui est aussi grâce justement à ce très beau double numéro de la revue Balisage sur un sujet dont en même temps on entend parler tout le temps et qui en fait, et c'est une des raisons pour laquelle voilà, je m'intéresse à ça, il y a encore beaucoup de choses à en dire et à comprendre derrière ce phénomène de la désinformation malgré tout ce qu'on a dit. Donc merci beaucoup de me permettre d'être là aujourd'hui. On regrette évidemment que Suzanne Kovacs ne soit pas là. Mon rapport au XVIIe siècle, ça a été celui, dès le début de la thèse, d'une sorte de surprise, mais une bonne surprise, une curiosité. Parce qu'il y a le XVIIe siècle tel qu'il a été établi par l'histoire littéraire, hein, le classicisme, quoi, hein, qu'on voit marmoréen, qu'on voit dans les grands monuments, qui a l'air très fixe par rapport ensuite à des époques postérieures, soit le 18e révolutionnaire, soit le 19e siècle de la révolution industrielle. Quand j'ai commencé ma thèse, et je crois que ma génération de chercheuses et chercheurs, on est plusieurs dans ce cas, notamment grâce à l'accès numérique aux ouvrages, c'est-à-dire grâce aux numérisations qu'on trouve sur Gallica, sur Google Books, on accède en fait à cette littérature du XVIIe siècle par un tout autre angle. Et on découvre des livres qui n'ont pas du tout été canonisés, qui ne sont pas du tout des livres qu'on aborde traditionnellement, mais qui sont en fait des livres extrêmement importants, spécifiquement pour la deuxième moitié du XVIIe siècle, dont je suis plutôt spécialiste. Et donc, ce qui apparaît très fort quand on commence à fouiller là-dedans, c'est la dimension, alors marketing, peut-être j'y reviendrai dans un instant, c'est-à-dire d'un savoir-faire commercial extrêmement développé, des stratégies de vente, mais qui vont plus loin que la simple vente ou que la simple publicité, une manière de rendre le produit ou le livre important pour un certain public, comment susciter l'envie de lire, comment susciter l'envie d'acquérir. Donc là, il y a toute une série de techniques commerciales qu'on associerait en fait à des périodes beaucoup plus modernes, qui sont présentes et qui sont théorisées comme telles. Et puis par ailleurs, une innovation médiatique qui est passionnante. Le Mercure Galant, pour donner un exemple, hein, dont hérite de manière très lointaine les éditions Mercure de France, qui a pendant longtemps existé en tant que périodique, le Mercure de France. Qui,
jusqu'en donc, 1965.
Voilà, très. Voilà, donc ce Mercure Galant, c'est pas seulement un journal, c'est toute une réflexion autour du besoin dans le monde de l'imprimé de pouvoir renouveler régulièrement les contenus, de pouvoir connecter les gens entre eux. C'est-à-dire que le Mercure Galant, pour une grande partie, est en fait collaborative et se construit à partir de contributions qui viennent de l'Europe, voire du monde entier. Donc, on a des gens qui interagissent au travers du livre sans jamais se connaître, notamment par des jeux qui sont beaucoup plus importants que nos mots croisés. Et puis, c'est aussi toute une histoire, et là, on arrive sur la question de la désinformation. C'est-à-dire que c'est un périodique qui mêle des contenus, notamment des gravures. Hein, la presse illustrée n'a pas attendu le 19e. Le Mercure Galant, c'est 2 à 4 gravures par numéro, un numéro par mois, 2 à 4 gravures par numéro, 2 partitions aussi, 2 airs nouveaux de la musique, donc, qui est diffusée à partir de Paris et de Lyon dans toute l'Europe, voire le monde entier, en tout cas dans plusieurs endroits du monde qui dépassent l'Europe, chaque mois. C'est impressionnant, hein, de le penser pour le 17e. Et donc, un journal qui aussi, à l'intérieur de ses contenus, glisse toute une série de nouvelles, en particulier des nouvelles de guerre, racontées du point de vue français, soigneusement vidées de tout contenu négatif pour la France, Alors ça existe depuis longtemps, c'est la Gazette, c'est des choses comme ça, mais ce que le Mercure Galant fait, c'est de mêler ses contenus dans un même volume. Et donc, vous vous intéressez au Mercure Galant pour la musique, vous êtes confronté par ailleurs à ce type de narration des guerres en cours qui sont forcément en faveur de la France. Et voilà comment on commence à créer de la désinformation. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas seulement de dire des choses qui sont fausses, ou en tout cas qui sont manipulées. La question, c'est aussi comment est-ce qu'on fait pour que ces choses fausses atteignent un public, convainquent un public plus important que le récit contraire, et donc qu'on commence à occuper le champ médiatique avec des informations qui, tout en étant hautement discutables par rapport aux faits, sont en fait le récit qui va devenir, qui s'impose comme récit commun. Et ça, on l'obtient notamment en mêlant ces informations à du divertissement, à des sujets qui n'ont rien à voir et qui dépolitisent cette information. Donc c'est ce genre d'objet auquel on est confronté quand on plonge dans le 17e et qui est mon 17e à moi et à beaucoup d'autres de mes collègues.
Oui, parce que votre 17e, quand vous parlez par exemple de Molière, nous on a cette vision d'un saltimbanque qui parcourt la France, et en fait vous dites que c'est un entrepreneur. Que c'est que en fait en réalité il fonctionne sur non pas seulement c'est pas forcément qu'un homme de lettres, mais c'est un homme d'argent, il veut faire de l'argent, il est dans cette époque où en fait on travaille sur la question enfin de l'économie qui est très importante. Donc c'est ça aussi en fait le 17e que vous nous donnez à voir.
C'est un 17e très entrepreneurial. Alors en disant ça, il s'agit pas il ne s'agit surtout pas, en fait, de, comme on le dit souvent, de réduire le 17e ou de réduire le théâtre de Molière à de l'entrepreneuriat. C'est précisément l'inverse. C'est de comprendre que dans la conception de ces œuvres qui sont aujourd'hui canoniques, qu'on aime ou pas, mais en tout cas qui sont le canon tel qu'on le pense, en réalité, il y a des fonctionnements qui mêlent justement des problèmes sociaux qui sont la carrière, qui sont l'économie, et que ces questions-là n'appauvrissent pas la création artistique, mais qu'au contraire, il faut comprendre leur intrication complexe pour pouvoir comprendre comment ça marche. Donc en parlant d'entrepreneur, c'est pouvoir mettre le doigt sur le fait que Molière est né dans un milieu très aisé et il est mort extrêmement riche. Il y a eu des moments où les entreprises... ces entreprises se défont, font faillite, mais il n'y a aucun moment où il est en situation difficile personnellement. C'est les entreprises qui font faillite. Une compagnie de théâtre qui fait faillite, c'est une entreprise qui fait faillite. Il a une charge à la cour, encore une fois, il vient d'un milieu tout à fait aisé. Mais justement, quand on commence à penser le théâtre comme entreprise, alors on donne des dimensions supplémentaires aux pièces de Molière. C'est pas seulement Molière se dit à un moment qu'il veut parler de tel sujet parce que ça l'intéresse à ce moment-là, mais bien qu'il y a un sujet d'actualité et quelque chose à faire sur ce sujet et du contenu disponible qui peut être reconfiguré en pièce de théâtre. Et bon, moi, il me semble que ça donne quelque chose d'extrêmement vivant à la création théâtrale de pouvoir l'aborder en ce sens. Oui.
Donc, vous avez vraiment, on voit bien dans votre positionnement, enfin dans votre vision de chercheur, cette vision que vous décalez en fait en termes de décalage que vous avez sur l'époque que vous étudiez. Et pour en venir vraiment au sujet de la désinformation, désinformer pour mieux régner, vous mettez en évidence l'émergence d'une culture de la désinformation dès le XVIIe siècle, et vous commencez en fait dans une approche très contemporaine. Vous introduisez votre article notamment autour de la notion de fake news, et en fait vous citez Donald Trump. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment vous arrivez à établir cette comparaison et votre analyse en fait à partir du contemporain?
Et ce décalage n'est pas toujours facile à assumer, d'ailleurs. C'est pas quelque chose qui... Donc merci d'ouvrir cet espace pour en discuter. Je suis venu au sujet de la désinformation pendant mes années aux États-Unis, en écoutant beaucoup d'émissions d'analyse politique. Et avec ce constat d'un décalage que je percevais, ça ne veut pas dire qu'il est si fort que ce que je l'ai perçu, mais je l'ai perçu et ça, ça m'a semblé être une urgence, entre d'un côté la réalité d'un phénomène extrêmement complexe où une société perd progressivement un accord même sur les faits les plus fondamentaux, des phénomènes de manipulation médiatique extrêmement complexes, et d'un autre côté une réflexion sur les fake news que je trouvais qui se limitait à l'objet fake news, c'est-à-dire à se dire ben voilà comment est-ce qu'on va faire, il y a des fausses informations, il y a des vraies informations, puis les fausses informations il suffirait, je simplifie, de les étiqueter comme fausses ou d'inventer un mot comme infox par exemple pour voilà pour pouvoir qualifier la chose et puis on ferait la différence entre une fausse information et une vraie information. C'était frappant de voir par exemple comment notamment dans le New York Times, plusieurs grands historiens se sont emparés du sujet, notamment Robert Darnton, notamment Jacob Sol, en faisant une histoire des fake news, en disant ça existe depuis longtemps. Mais cette histoire des fake news, c'était l'histoire de rumeurs qui étaient répandues par l'imprimerie, par la rumeur, de rumeurs répandues oralement par l'imprimerie depuis le XVIe siècle. Bon, c'est une chose. Mais en fait, quand Donald Trump, par exemple, sur Twitter, parle de contrairement à ce que CNN, ce que fake news CNN a dit, virgule, mon entretien avec la chancelière Angela Merkel s'est très bien passé. C'est beaucoup plus compliqué que ça, ce qui se joue. C'est pas une affaire simplement de répandre une fausse nouvelle. C'est déjà utiliser un mot magique, une espèce de mot valise, un élément de langage, fake news, qui fonctionne comme un terme magique pour dire, pour discréditer tout ce que ce mot qualifie. Et puis, par ailleurs, c'est aussi en appeler à tout un imaginaire d'une sphère médiatique qui serait corrompue, pas crédible, à qui on retire toute crédibilité pour imposer un récit contraire. Et quelle que soit en fait la vérité de ce qu'on qualifie de fake news, le fait qu'ils le disent, on sait qu'il y a un électorat, 35-40% de personnes qui sont automatiquement convaincues, ou qui veulent être convaincues, que c'est noté fake news par Donald Trump, donc c'est fake news. Ou en tout cas, on peut adhérer à un récit alternatif. Et ça, il me semble que c'est beaucoup plus complexe que de dire qu'il y a eu des fausses nouvelles dans l'histoire du monde. Et c'est ça qui a commencé à me titiller, parce que cette idée de « ne vous occupez pas de ce dont je ne veux pas que vous vous occupiez », et occupez-vous seulement de ce que je veux, de ce dont je veux que vous vous occupiez, ben c'est quelque chose qui résonnait très fort avec des objets que j'avais étudiés au XVIIe siècle, que j'avais pu voir au XVIIe siècle. Alors, le mercure galant, j'en ai parlé, comment attirer l'attention vers un objet plaisant pour lui imposer un certain récit des événements plutôt que des récits alternatifs, ou plutôt des récits contradictoires, mais beaucoup moins plaisants à lire. Mais aussi toute une série de discours qui ridiculise la curiosité pour des informations, pour discuter l'information, pour comparer des différentes versions d'une information, d'un fait, et commencer à se demander, mais en fait, qu'est-ce qui s'est vraiment passé ? Toute une série de discours qui met en place un climat dans lequel il est beaucoup plus facile d'imposer une certaine version des faits. Alors, ce qui m'a donné envie de retourner au XVIIe siècle, ce qui me paraît assez justifier la chose, c'est surtout que, autour de la question des fake news, on a l'idée que c'est quand même principalement le problème des réseaux sociaux. Alors, ce seraient les réseaux sociaux qui nous amènent dans ce monde post-factuel. Or, alors, si on peut repérer le même type de phénomène et le même type de problème au 19e siècle, c'est déjà différent. C'est donc ça ne peut pas être tout à fait les réseaux sociaux. Mais on dira, oui, mais c'est la société industrielle et le journalisme de masse. Ce qui me semble intéressant au XVIIe, c'est qu'au XVIIe, on est très loin. On est très loin et ça empêche quand même de raconter l'histoire en l'indexant sur un technodéterminisme. De dire, c'est à cause d'une technologie que. Parce que tant qu'on prend le symptôme pour le problème, tant qu'on pense que les fake news viennent des réseaux sociaux, je pense qu'on va se retrouver confronté en fait à un problème qui est beaucoup plus profond, qui est beaucoup plus fondamental à notre société de l'information, notre rapport aux faits, notre rapport à la vérité, notre rapport à une société qui veut vivre ensemble ou non. Et on va continuer à pouvoir se raconter une histoire où le problème, c'est les réseaux sociaux, avant tout allait bien. Voilà. Et donc, pouvoir regarder les choses au XVIIe siècle, c'est pouvoir prendre quelque chose qui est extrêmement loin, qui a refroidi, en fait, et le regarder à distance avec de l'archive, avec du livre, et se dire, bon, là, on a les pièces du dossier. Quand on regarde ça, qu'est-ce qui s'est passé ? Et donc, c'est là que me semble notamment important de faire ce retour en arrière.
Et quelles sont vos pièces de dossier lorsque vous avez mené cette enquête concernant les fake news, alors que vous mettez en évidence, qui ne sont pas les fake news telles qu'on les entend. Quelles sont vos pièces de dossier ? Quelles ont été les sources que vous aviez réutilisées ?
Alors, c'est quelque chose de très disparate parce que, là aussi, ce qu'il y a de bien avec les fake news quand on les pense comme fausses nouvelles, c'est que ça se voit très bien. C'est des documents d'archives très maîtrisables, on les a, c'est des imprimés. On peut dire, voilà, l'histoire d'une mère qui a accouché après 34 ans d'un bébé de 33 kilos, on l'a, on voit que ça existe, et là, on peut en faire une histoire facilement. L'histoire de la manipulation, c'est quelque chose quand même méthodologiquement beaucoup plus complexe. C'est pas facile de retrouver... Alors, Je vais dire autre source, mais même l'efficacité des choses, pour qu'il y ait manipulation, il faut qu'il y ait efficacité. Comment est-ce qu'on accède à ça ?
Parce que vous mettez en évidence dans votre article que vous avez réutilisé des sources qui n'avaient jamais été étudiées de cette façon-là.
C'est ça.
Et j'aimerais bien que vous nous expliquiez pourquoi, en fait.
Ouais. Je vais prendre un exemple très concret. Au début d'une pièce de Molière qui n'est pas souvent jouée aujourd'hui, qui s'appelle « La comtesse d'Escarbagnas », qui est une de ses pièces sur la noblesse ridicule de province, qui se passe avec, qui est une comédie ballet par ailleurs, donc qui parle de choses galantes et de nobles ridicules. On a une première scène qui est un long monologue d'un personnage qui arrive en retard et qui arrive en retard parce qu'il a été arrêté en voyage sur sa route par un de ses nouvellistes. Le mot est lâché. Qui lui a parlé des dernières nouvelles de la guerre de Hollande, de la Gazette de Hollande, qui de toute façon épouse les intérêts de ces journaux étrangers qui ne nous veulent que du mal, qui croit comprendre la politique internationale, qui est complètement ridicule parce qu'il a proposé une analyse alors que moi, tout ce que je voulais faire, c'était me rendre à mon rendez-vous galant. Ce monologue-là, il n'a aucun rapport avec la dramaturgie de la pièce. Il n'a aucun intérêt. C'est un insert de discours politique au milieu d'une pièce qui parle de toute autre chose. Or, pourquoi est-ce que cette pièce n'a pas été vue comme ça ? Il y a plusieurs raisons. La première, c'est déjà qu'il faut qu'on puisse commencer à se demander, et ça c'est l'avantage de l'époque dans laquelle on vit, c'est que tout à coup ces questions reviennent à la surface et on se dit mais qu'est-ce que c'est quand même que ce discours qui invite à ne pas se préoccuper des affaires étrangères, à se dire bon, de toute façon qu'est-ce qu'on en sait, mêlons-nous, occupons-nous de nos rendez-vous galants. Donc déjà il y a une sensibilité nouvelle à cause de l'époque dans laquelle on vit, on pose toujours les questions de son époque. Mais ensuite, il y a un certain rôle qu'on peut assigner au théâtre, qu'on assigne ou pas au théâtre. Si on pense que le théâtre est forcément un lieu de création artistique limité à une idée de Molière en tant qu'artiste créer une pièce en dehors de tout questionnement politique, alors forcément, on ne peut pas se dire que ce passage est un message politique. Si on commence à penser le théâtre comme un lieu de public captif, par un dramaturge qui, par ailleurs, est le comédien du roi, dont la troupe est financée par le roi, qui, à d'autres moments, a déjà fait acte d'opération de communication royale, comme n'importe quel écrivaine ou écrivain du siècle de Louis XIV, ça fait partie de l'activité de Plume. Alors on peut commencer à voir les choses différemment et à se dire, mais au fond, c'est terriblement efficace de prendre une pièce de théâtre plaisante comme ça pour glisser en début de pièce, avant même qu'on se rende compte de quoi il s'agit, un message qui forme un certain type de comportement, qui délégitime toute prétention à l'analyse politique ou à la lecture des gazettes étrangères en disant « Regardez ce ridicule-là qui lit la Gazette de Hollande, sous-entendu ne lisez pas la Gazette de Hollande, qui croit accéder à la politique internationale et comprendre en fait qui sommes-nous pour le savoir, personne, et mêlons-nous plutôt de nos affaires. » Et de glisser ça en début de pièce pour ne plus en reparler après, c'est un message politique qui est inséré et qui se diffuse comme ça. Mais pour le voir comme ça, il faut penser le théâtre en dehors du théâtre, dans un réseau de documents, d'actions qui ne sont pas nécessairement du théâtre, parce que ce dont je parle se voit aussi parfois dans des nouvelles, parfois dans le Mercure Galant. Donc on est obligé de sortir le théâtre du théâtre et de l'aborder au travers d'autres documents et d'autres questions. Et là, tout à coup, il y a des choses qui ressortent. Et c'est le cas aussi pour l'Angleterre et l'Espagne.
Oui, vous mettez en évidence l'Espagne, la France et l'Italie.
Pas l'Italie. La chose se voit aussi en Italie, mais j'avais pas.
Oui, donc en fait, vous mettez donc en évidence des stratégies de désinformation en tant que telles. Qui développe en fait de la désinformation dans un contexte de crise politique où l'écrit et l'information jouent un rôle capital, et notamment la littérature, le théâtre. Le pouvoir de la littérature, du coup, était quelque chose qui n'était pas forcément visible dans les domaines de spécialité en tant que chercheur de la littérature. C'est quelque chose que vous mettez en évidence dans vos travaux ?
Alors, il y a, ça fait longtemps qu'on a vu le pouvoir de la littérature, évidemment, il s'agit, mais c'est vrai que c'est un bon cas d'étude pour penser à ce pouvoir de la littérature. C'est un bon sujet, disons, pour penser ce pouvoir de la littérature. Encore une fois, où on aurait tendance à partir du principe qu'il s'agit de littérature, donc. Or, il faut jamais oublier que le rôle de la littérature aujourd'hui, même s'il y a de la littérature engagée, est un rôle surspécialisé dans un monde de médias concurrencés par cinéma, réseaux sociaux, télévision. Et même la définition même du mot littérature, c'est bien quelque chose qui se met en dehors, qui se met à côté. C'est pas n'importe quel écrit, c'est un écrit à visée, disons, esthétique ou avec quelque chose ou politique, mais en tout cas qui se met en dehors, qui appartient à une certaine catégorie. Or, en fait, ces textes, que ce soit Molière, que ce soit Ben Jonson en Angleterre. Voilà, ce sont des ouvrages qui n'évoluent pas du tout dans un contexte médiatique similaire. En fait, ils assument toutes les fonctions qui sont les fonctions qui sont aujourd'hui spécialisées dans différents médias. Le livre est à la fois la télévision, le livre est à la fois le cinéma, le livre est à la fois le réseau social. Et donc, y a ça aussi à voir dans ce pouvoir de la littérature, cette capacité à toucher pas forcément plus largement en termes de chiffres, bien sûr, parce qu'il y a tous les problèmes de lecture, mais d'assumer tous ces différents rôles et d'imposer une certaine manière de voir le monde, d'imposer une certaine manière de se comporter. C'est des modèles quand même de comportement. Et quand ça touche à l'information, ben c'est des modèles de comportement par rapport à l'information. Et là, je dis la littérature, mais on peut aussi attendre ça. Par exemple, il y a un almanach à la fin du XVIIe siècle, qui s'appelle l'almanach de Que dit-on, quelle nouvelle, où on voit des passionnés d'information se retrouver sur le quai des Augustins à lire des gazettes. Leurs habits sont ridicules et il y a quelques vers en dessous qui disent qu'en gros, pendant qu'ils sont en train de lire les nouvelles et de croire qu'ils peuvent comprendre l'actualité politique, ils sont tous cocus, ils sont ridicules et il ferait mieux d'aller se battre pour la France que de commenter l'information. Voilà. Il y a toute une série de choses comme ça où la littérature a le pouvoir la gravure et les vers par le pouvoir de la fiction, de la mise à distance, en fait, de faire passer très habilement des choses qui ne passeraient pas du tout si elles étaient frontales, si on les posait comme un édit royal ou voilà.
Oui, vous écrivez que la diffusion de la poésie, de la prose, ont un rôle comparable à celui joué aujourd'hui par des émissions de grande écoute. Donc ce parallèle est très, très impressionnant.
Dans le sens surtout du public captif, c'est-à-dire que c'est une question plus largement sur la question des marchés du livre aussi, mais en fait, on a beaucoup travaillé l'histoire de la lecture et l'histoire de la littérature pour les siècles anciens en fonction du nombre, du pourcentage de gens qui peuvent lire dans la société. Alors, c'est évidemment extrêmement important. Mais ça ne dit pas tout. C'est-à-dire que sur un royaume de... je sais pas, sur une ville ou un royaume de quelques millions de personnes, 3% c'est très peu à l'échelle du royaume, mais en fait c'est déjà beaucoup de monde. Et si ces 3% sont les 3% qui influencent directement la politique royale, alors en réalité, et qu'on peut capturer, qu'on peut garder captif, ou qu'on peut toucher la moitié de ces 3% en un ouvrage de théâtre, on a quelque chose de comparable en fait à un média de masse ou à une émission de grande écoute.
D'accord. Maintenant, pour en venir, on avait déjà abordé ces stratégies de désinformation. L'utilisation des différents canaux de diffusion sous des formes séduisantes, attrayantes et en fait à des fins de dépolitisation, qui dépolitise le contenu. C'est quelque chose qui est assez intéressant parce qu'on voit tout à fait des réseaux sociaux type TikTok qui peuvent tout à fait être utilisés à des fins politiques, en vue de dépolitiser le contenu en tant que tel. Est-ce que vous pouvez nous décrire ces canaux de diffusion au XVIIe siècle ?
L'exemple de Molière que j'évoquais à l'instant est frappant. En fait, c'est le fait de glisser cette scène ultra politique dans un ouvrage qui parle de la noblesse de province ridicule. C'est une manière de faire disparaître sa dimension politique et donc justement de ne pas donner l'impression qu'on est en train de faire de la politique alors qu'en fait on est en train d'en faire. Preuve en est la difficulté même pour la critique littéraire de repérer ce passage comme étant un passage hautement politique. De même le Mercure Galant lorsqu'il mêle ses questions, ses nouvelles de guerre à des nouvelles littéraires, à des gravures, à de la musique, et d'ailleurs c'est comme ça qu'il se présente en disant ce livre aura de quoi plaire à tout le monde à cause de la diversité des contenus, ceux qui aiment les histoires, ceux qui aiment les modes, ceux qui aiment, etc. Et on ne parle jamais, et on ne dit même pas qu'il y aura des nouvelles, alors que c'est 70% du Mercure Galant. Cette dépolitisation, elle se joue là, et elle est frappante, parce que là, il y a un parallèle extrêmement fort à faire entre ce qu'on fait des chaînes comme Fox News aux États-Unis, comme des chaînes qu'on connaît ici autour de voilà, qui se donnent soit comme chaînes d'information, mais qui sont en fait en train de faire une sorte d'infotainment en trafiquant les choses, soit au contraire qui mêlent à du divertissement ou sous des airs de divertissement des propos politiques extrêmement orientés, extrêmement marqués. Et qui parviennent comme ça à convaincre et à diffuser beaucoup plus efficacement un message que ne le font les chaînes d'information traditionnelles qui disent attention, là on va commencer à faire de l'information et on va vous donner de l'information. Et toutes ces stratégies de mélange, de dissimulation, de dépolitisation, elles sont fondamentales pour comprendre comment la fake news non seulement se crée, mais se diffuse et prend et peut se s'accrocher alors même qu'on sait très bien que c'est une fake news.
Un autre élément que vous mettez en évidence, c'est la rhétorique du nous contre eux. Mais qui est ce nous et qui sont ces eux en fait dans ces stratégies de désinformation ?
Donc ce nous contre eux, c'est quelque chose qui a été mis en évidence beaucoup par les spécialistes, par les politologues aussi, par les spécialistes d'information et communication, comme une rhétorique qui est populiste, voire qui tend vers, qui est très présente dans les régimes autoritaires, disons-le comme ça, et justement toute son efficacité. C'est de ne jamais définir qui est nous et qui est eux. C'est-à-dire de pouvoir dire, de rallier un groupe en disant nous par rapport à eux, et évidemment en créant un eux fantôme, stratégie de l'homme de paille. Alors aujourd'hui, c'est très violent par ailleurs d'avoir ce débat vu la période dans laquelle on est, hein, c'est exactement ça. On crée des groupes, on crée ce qu'on appelle des boucs émissaires, hein, on crée des groupes, on les façonne d'une certaine manière dans le discours médiatique, dans le discours littéraire, et puis ensuite on façonne nous. Et nous, c'est ceux qui partageons soi-disant une valeur de manière assez lâche pour que toute personne qui lise puisse s'identifier potentiellement à ce nous et à faire bloc. Et le fait d'avoir un them, le fait d'avoir un eux, permet de trouver une source du problème et de faire bloc contre ce eux.
Oui, c'est très intéressant dans le cadre du contexte actuel. C'est le cadre de ce numéro, d'ailleurs, de balisage, où on met en évidence que la désinformation crée elle-même du contexte, un contexte de crise politique. Mais l'objectif implicite de la désinformation est aussi d'éroder la confiance en toute information. Parce que quand vous avez, vous mettez en évidence fake news dans le sens que l'on connaît de la fausse information, mais également en tant que, ce que vous dites, élément de langage, ce deuxième sens de fake news qui vise à laisser planer le doute sur ce qui est vrai et ce qui est faux. Voilà, éroder la confiance en toute information. Ça, c'est quelque chose d'assez... l'impact est très fort.
Très fort et pour moi, urgent et en fait terrifiant. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, on est dans une telle... tellement tout et son contraire est vrai quand on le veut, qu'est-ce qui nous reste pour faire société, en fait. Au bout d'un moment, si on n'est plus d'accord sur rien du tout, comment est-ce qu'on peut même imaginer vivre ensemble ? Et cette utilisation du... Alors, il y a un très bon ouvrage, et la fatigue du mois de juin fait que je n'arrive plus à mettre mais qui s'appelle donc l'usage du scepticisme en Europe au XVIIe siècle. Alors le scepticisme, on voit la philosophie, mais en fait il y a évidemment un usage politique de ce scepticisme. Alors positif quand il s'agit de remettre en question les choses, de se questionner sur les choses, mais qui peut aussi être instrumentalisé pour en fait voilà défaire toute croyance en quoi que ce soit, ou en tout cas tout accord sur quoi que ce soit, et rendre absolument tout et son contraire possible selon l'orientation qu'on veut donner à la chose. Alors ça se voit très bien dans ces discours du XVIIe, soit chez Molière, soit chez Ben Jonson, encore une fois, hein, Ben Jonson, donc un dramaturge du début du XVIIe, sous James Ier, qui fait des choses tout à fait similaires dans ses pièces de théâtre. Il ne s'agit pas d'imposer... Il ne s'agit pas tellement d'imposer une vérité positive, autre, alternative à la réalité. Il s'agit de dire, au fond, on ne s'en occupe pas. Ne nous mêlons pas de ces choses-là, ne nous mêlons pas d'informations. De toute façon, tout ce que vous pouvez lire est faux. Vous ne pouvez faire confiance à rien du tout, avec aussi l'idée déjà très présente au XVIIe siècle que la presse vendue est une presse vendue. C'est-à-dire toute l'idée de mainstream média, comme on dit aujourd'hui, qui serait corrompu par l'argent, qui ne cherche qu'à faire du profit, qui sont au service d'eux parce qu'ils sont payés. Et le problème de cette approche, c'est que en réalité, ça laisse une plage vide pour que d'autres choses puissent s'insinuer. Encore une fois, des récits alternatifs fondés sur rien. Et en fait, cette instrumentalisation du scepticisme, elle est toujours, il y a toujours quelqu'un, quelque chose derrière, et c'est toujours au bénéfice de quelqu'un qui, voilà, de quelque chose qui a besoin de mettre tout à plat pour pouvoir s'imposer par-dessus. Donc c'est plus du tout du scepticisme positif et rationnel où on essaye d'avancer vers une vérité, mais au contraire quelque chose qui permet de faire fi de tout ce qui nous embête. C'est comme le fake news de Donald Trump, tout ce qui nous dérange, tout ce qui est incommodant. De toute façon, c'est pas vrai, et tout ce qui nous arrange, mais de toute façon, c'est vrai. Et ça se construit vraiment comme une stratégie de désinformation, désinformer pour mieux régner. À force de subir au XVIIe siècle de nombreuses gazettes, journaux, médias qui circulent et qui disent des choses qui ne conviennent pas au pouvoir en place, on dit arrêtez de lire, écoutez ce qu'on vous donne, écoutez ce qu'on vous propose, et le reste, ne vous en occupez pas, de toute façon. Vous ne pouvez rien en savoir, on ne peut rien en savoir, on ne peut rien savoir de rien, donc laissez-nous en charge des choses.
Oui, c'était quelque chose qui était assez important pour Susan Kovacs. Face au déluge d'informations et de désinformations, l'incapacité à distinguer le vrai du faux, le fictionnel et le réel, le rationnel et l'irrationnel. Alors j'avais prévu de lui poser la question, mais je vais vous la poser quand même à vous, si vous acceptez. Comment arrive-t-on malgré tout dans cette impossibilité de distinguer le vrai du faux à détecter des narratifs mensongers au XVIIe siècle? Enfin, en tout cas, peut-être qu'avec votre expertise dans les humanités numériques ou en littérature, enfin, comment arrive-t-on à les détecter?
Si on avait la solution, voilà, si on avait la solution, peut-être qu'on n'en serait pas là, mais... Une chose qui est frappante au XVIIe siècle, et moi qui me frappe de manière un peu naïve, je pense que toutes et tous dans la salle, on l'a déjà pensé. Voilà, mais il y a toujours le problème de la mise en contexte. C'est-à-dire que pour les historiens du XVIIe siècle, pour la tentative d'écrire l'histoire, comment écrire l'histoire, l'immense différence entre une gazette et une histoire, c'est que l'histoire est capable de donner les sources et les raisons des événements, la remise en contexte de quelque chose. Là où une gazette ne donnera que le fait, avec tous les guillemets que je peux mettre autour de ce terme difficile, mais le fait pur. Et qu'il est impossible de comprendre les choses uniquement en lisant les gazettes, parce qu'il nous manque ce contexte. Et voilà, ce face à quoi nous met l'IA aujourd'hui, beaucoup plus impressionnant, parce que pour sa vitesse de production, pour sa capacité à générer du deepfake, pour sa capacité à générer des images qui sont aujourd'hui tout à fait crédibles et photoréalistes, hein, où il est vraiment très difficile, où il commence à devenir très difficile de voir la différence. Au fond, une des réponses, c'est pas plus de technologie par rapport à ça et des espèces de sur-technologie et sur-technologie, mais un problème de contextualisation. Et là, il me semble que les bibliothèques jouent un rôle. La documentation, la science du document, l'ingénierie du document, la bibliothèque, elle joue un rôle essentiel là-dedans. Dans le sens où une bibliothèque, ce n'est pas un document isolé, ce n'est pas lire une ligne de quelque chose, c'est un document mis avec d'autres documents. Une archive, ce n'est pas un document isolé, c'est un document mis ensemble avec d'autres documents qui voilà, permet de ne pas sortir une seule ligne d'un document pour en faire tout à coup un raisonnement, mais de le replacer dans quelque chose de plus large, de pouvoir compter sur des gens qui sont des spécialistes justement de ce document pour dire oui mais attention, d'accord ce livre, mais à côté de ce livre il y a ce livre et il y a ce livre, à côté de cet article de journal, il y a cet article et cet article. Et en fait, quand je disais avant le problème de prendre le symptôme pour la cause, pour moi même avec l'IA on est face à un problème qui s'accélère, qui pose de nouveaux défis mais qui fondamentalement est toujours le même, c'est-à-dire que c'est notre rapport, le problème il est social, c'est-à-dire que c'est notre rapport à notre volonté soit de faire société et de tirer vers quelque chose voilà, qui tient, et là on a plein d'outils, on a des savoirs, on a des gens qui savent le faire, ou alors de toute façon on veut que ça ne marche pas, ou on veut pouvoir utiliser ces outils pour détruire, on pourra toujours le faire, il n'y aura pas de garde-fou assez puissant pour le faire. Au bout d'un moment on est en tant qu'humain, en tant que société responsable de ce qui nous arrive, quoi.
Alors vous parlez du rôle des bibliothèques, alors ça tombe très bien parce que nous sommes à la BPI et donc face à un public de professionnels de bibliothèques. Quand nous avions accueilli David Collant et Nathalie Marceau-Ramel, il faisait référence dans son introduction, il avait dit donc face aux étudiants de l'ENSIB, l'information est un bien public. Elle n'est pas une affaire de journaliste, de gouvernance, c'est l'affaire de tous. Et c'est aussi, j'allais dire, en priorité, peut-être pas en priorité, mais en tout cas, l'affaire des professionnels de bibliothèque. Enfin, qu'est-ce que vous en pensez en tant que chercheur? Si la question n'est pas trop piège.
elle est trop intéressante. Il y a une chose qui est frappante, c'est précisément sur cette question, mais je prends un chemin détourné. Il y a une chose qui est frappante dans le rapport aux fausses informations et le rapport à l'information tout court. C'est la manière dont sont construits ces faux raisonnements à partir de bribes d'informations remises en narratif pour donner en fait quelque chose de complètement faux mais qui paraît vrai. C'est que c'est pas sans ressembler parfois à ce qu'ont pu être par exemple les études littéraires et l'interprétation littéraire. Moi qui viens de formation en littéraire, l'approche purement structuraliste du texte, l'approche décontextualisée du texte, c'est un petit peu ça quand même que fait une théorie du complot. C'est prendre des éléments d'un texte et décider qu'on en fait telle lecture, hein, une lecture de certains éléments en faisant fi du contexte dans lequel apparaissent ces éléments. Et donc, venant de formation littéraire, mais enseignant aujourd'hui dans un master métier du livre et de l'édition, dirigeant un département d'ingénierie du document, travaillant sur ces questions aussi en recherche, sur la question, encore une fois, du marché du livre, d'extrême contextualisation, pour moi, un des rôles qu'on a là-dedans, c'est d'aller un petit peu contre ça, non pas du tout contre les études littéraires en soi, mais contre ce réflexe qui est de pouvoir former, qu'en somme, voilà, d'essayer de faire la différence et de combler ce vide entre de retrouver la barrière entre opinion, lecture, impression, et encore une fois, fait ou en tout cas quelque chose qui puisse être défendable. Remettre du contexte dans les choses, et parmi toutes le déclin terrifiant de Twitter depuis qu'il a été racheté par Elon Musk, il y a l'ajout de la fonctionnalité contexte, je ne sais pas si vous l'avez déjà rencontré, qui est très intéressante parce que ça permet tout à coup à des tweets qui circulent et qui disent n'importe quoi, d'avoir en trois lignes en dessous un contexte qui apparaît obligatoirement avec ce tweet. Et on voit tout à coup l'effet simplement de cette remise en contexte et de ce que ça fait de la puissance. C'est beaucoup plus efficace que de dire fake ou pas fake. C'est pas juste de dire oui, c'est vrai, non, c'est pas vrai. En fait, on n'en sortira jamais de oui, c'est vrai, non, c'est pas vrai. C'est la cour d'école, quoi. Notre, je me permets de me mettre dans le nous ici. Notre travail, entre autres, c'est de redonner de la matérialité aux informations, particulièrement dans un monde numérique, je trouve, que cette matérialité soit justement numérique, c'est-à-dire que voilà, ça, mais de dire ben ça vient de là, c'est pas un énoncé qui est vrai en soi, il existe dans un support, il est énoncé par quelqu'un, il est dit par quelqu'un, il vient de quelque part, et c'est pas nouveau hein, ce que je dis, mais il me semble que notre rôle il est extrêmement clair de ce côté-là, voilà, de recontextualiser ce qu'on dit, les choses, les informations, d'expliquer ce que c'est une archive, d'expliquer ce que c'est un document, d'expliquer ce que c'est une trace, pour comprendre d'où viennent les choses. À la fin, on retombe sur le même problème. On peut mettre tout ce qu'on veut comme bonne volonté, si en face il y a malveillance. Il y a malveillance. Mais au moins, on peut faire ça pour nous armer intellectuellement face à des informations et pouvoir continuer à discuter et à ne pas être d'accord sur énormément de choses, mais à ne pas être d'accord avec des choses qui partent quand même d'un socle commun d'accord sur ce que c'est, encore une fois, un fait, un document, un énoncé, toutes ces questions-là.
Alors, je vois qu'il est 16h. Je vais peut-être ouvrir les questions à la salle, si vous avez des questions. Un bras se lève.
Merci beaucoup déjà pour la présentation. C'est un sujet qui effectivement est ultra important au cœur de notre métier, mais de manière générale. Comme vous disiez sur Twitter, mais aussi sur YouTube, de nos jours, on a effectivement cet élément contextuel qui peut apparaître, qui d'ailleurs sur YouTube, de manière intéressante, est fait de manière automatique pendant le process de la vidéo. C'est une IA qui détecte si jamais il y a un sujet dont il faut mettre le contexte. Donc bon, là déjà, on est sur une étape de plus et on se dit, oui, d'accord, ok, est-ce que c'est contrôlé, tout ça. Mais du coup, qu'est-ce que vous pensez de ce qui se discute de nos jours, de la responsabilité des entreprises, vu qu'on est sur un domaine Internet qui est géré par des entreprises, qui n'est pas géré directement par les gouvernements. C'est le principe d'Internet d'une certaine manière, et qui, pour le meilleur ou pour le pire, est la plateforme sur laquelle on se développe le plus. Qu'est-ce que vous pensez de cette responsabilisation des entreprises, et est-ce que ça doit être légal, est-ce que ça doit être... voilà.
Je vous remercie pour cette question qui est fondamentale, qui pourrait là aussi par ailleurs être tiré jusqu'au XVIIe siècle, mais je vais rester là-dessus. C'est-à-dire que en fait on est dans cette situation, mais qui rejoint en fait un problème économique de fond. C'est-à-dire qu'on a des acteurs qui sont plus puissants que les gouvernements, des entreprises qui sont plus puissantes que les gouvernements, et qui décident par des algorithmes ce à quoi nous sommes exposés. Qui prennent des décisions comme s'il s'agissait de décisions privées, en termes de régulation des algorithmes, en termes de régulation de contenu acceptable, de contenu pas acceptable, etc. Comme s'il s'agissait de décisions en rapport au business plan, alors qu'il s'agit de questions, encore une fois, de société d'information. Mon problème, comme vous, j'imagine, c'est qu'en faire. C'est-à-dire, quels sont les capacités, possibilité de régulation de ce système. Est-ce qu'on n'est pas face à quelque chose qui nous dit beaucoup sur le système économique plus largement ? Mais pour dire des banalités, voilà. Et qu'est-ce qu'on pourrait avoir d'autre, sinon, par rapport à cette situation terrifiante à laquelle on est confronté. Parce qu'on parle des réseaux sociaux, mais on sait très bien aussi, on connaît aussi des sphères médiatiques qui fonctionnent de la même manière, comment tout à coup, voilà, il y a énormément de milliards derrière une chaîne de télévision, qui sait exactement comment capter, comment choisir certains faits plutôt que d'autres, sans aucune volonté d'objectivité, avec des mécanismes de contrôle comme l'ARCOM qui ne sont pas assez puissants en fait pour les contrôler. Bref, tout ça. Que peut-on faire sinon de s'armer intellectuellement, nous, et de former le plus possible de gens à être capable autant que possible de défaire ces systèmes, de comprendre ce qui se passe derrière, et pas seulement en disant oui, il y a un algorithme, parce que ça, c'est encore une fois, c'est du vrai faux, mais bien de dire voilà ce qui se passe, voilà la position de d'Elon Musk, voilà ce qui a été pris comme décision précisément, et de nous éduquer et d'éduquer autour. C'est dérisoire, mais j'ai pas d'autre idée. Si vous en avez une, je serais très preneur. Ça dit par ailleurs, encore une fois, hein, le problème du public captif. C'est-à-dire, ouais, peut-être je me permets de continuer un petit peu là-dessus plus généralement, parce que, en fait, on parle de ces objets, que ce soit mes pièces de théâtre au XVIIe siècle ou les plateformes, on en parle beaucoup en tant que tel. Et il y a vraiment une question qui est là, mais qui mérite de l'être encore plus, c'est la question de mais comment ça se fait que ça touche ? Parce qu'en fait, il y a plein de contre-propositions, plein d'autres chaînes d'information, plein d'autres manières de consommer une information qui tend, qui essaye d'être quelque chose d'autre. Et vraiment, la question à se poser, c'est comment est-ce que ces plateformes-là font le lien ? Alors, on peut parler des écrans, il y a plein de facteurs, mais la question du lien, en fait, la question de pas juste « oui, le public aime bien », mais précisément, comment ça se crée, ce lien ? Comment ça se fait qu'on soit beaucoup plus exposé à ces chaînes, à ces questions-là, à certaines de ces plateformes plutôt qu'à d'autres, à certains ? Pourquoi est-ce qu'on lit ça plutôt qu'autre chose ? Voilà, là aussi, il y a un vrai travail à faire sur la question du public. Et des publics. Et là encore, la bibliothèque me semble avoir, dans la présentation qui a précédé, hein, qui vient à la bibliothèque, comment, en fait, c'est les mêmes questions, avec des enjeux différents, mais les mêmes questions.
Est-ce que vous avez des questions, des remarques ? Oui, monsieur.
Bonjour. Déjà, je vous remercie pour votre intervention. Et ma question risque d'être un peu transversale avec ce matin. C'est vis-à-vis des images génératives. On sait que notre travail, c'est de contextualiser et de sensibiliser les usagers pour prévenir la désinformation, mais dans le cas d'images génératives par une IA, il est de plus en plus difficile de discerner l'information. Selon vous, comment, avec ces nouvelles technologies, est-il possible de ne pas retrouver le vrai ou le faux, parce que ça manquerait peut-être un peu d'intérêt, mais comment reconstitutionnaliser cette image et dire, bon, ben, c'est pas une image d'époque, c'est une image générée, malheureusement.
C'était frappant ce matin. C'était comment ça s'appelait déjà digital memories, mais synthetic memories, et de se dire qu'on avec une intention louable de recréer de l'archive pour des gens qui n'ont pas cette archive, avec ce que ça, cette chose vertigineuse de voilà ce qu'on aurait appelé encore très récemment un faux, quoi. Enfin, c'est littéralement un faux. On arrivera, enfin, je vois pas comment, vu la vitesse d'évolution, comment est-ce qu'on arrivera à dissocier une fausse image d'une vraie. Je vois vraiment pas. Et alors, il y a des tentatives de dire oui, mais ils inséreront dans le code de l'image quelque chose qui permet de détecter une vraie et une fausse. Alors, déjà, faudrait-il encore pouvoir éviter d'enlever ça ? C'est possible, la cryptographie peut le faire, mais même, je veux dire, qu'on vous dise ensuite oui, mais c'est une fausse image. Je veux dire, une fois qu'elle est répandue, l'effet image a déjà. Donc, alors, accrochez-vous pour la banalité que je vais dire, et pourtant, je vois plus que ça. Il y a une question de confiance. Donc, au bout d'un moment, encore une fois, et c'est le problème d'une société, la question, c'est plus. c'est plus est-ce qu'on arrive à authentifier ou pas l'image, parce que bah, je vois pas comment on va pouvoir le faire. Peut-être que je vois pas une solution, puis qu'il y aurait une super solution technique. Je serais ravi, j'adorerais avoir tort. Ce serait génial. Mais si j'ai pas tort, il y a un moment, il faut qu'on revienne à un problème de confiance, à une question de confiance. C'est-à-dire, c'est plus la question de est-ce que l'image peut être vue comme une image vraie ou pas. Ça devient la question de est-ce qu'on peut faire confiance à la personne qui nous propose l'image ou pas, et l'engagement d'une confiance. Et encore une fois, je pense que l'IA rend spectaculaire quelque chose qui se pose depuis le début de la photographie. L'impression de la neutralité, on connaît l'histoire, hein, l'impression de la neutralité d'une photo alors que le cadrage décide de ce qu'on voit. C'est, évidemment, l'IA passe un cap supérieur. On peut voir des gens en train de faire des choses qu'ils n'ont jamais fait ou imaginées. Mais en fait, déjà dans la photographie, on est face à une question de confiance. Et alors, c'est sûr qu'en ce moment, vu la situation dans laquelle on est, miser sur la confiance, ça paraît complètement délirant. Mais je vois, enfin, je ne sais pas si quelqu'un d'autre dans la salle a une idée, moi je ne vois pas ce qui nous reste d'autre que de revenir à cette idée de base, comme pour les historiens, encore une fois, au XVIIe siècle, de dire, mais en fait, la personne qui parle donne une légitimité à ce qu'elle dit. Ben, la personne qui transmet la photo donne une légitimité ou pas à cette photo, quoi.
D'autres questions, d'autres remarques? Oui, deux mains qui se lèvent en même temps.
Non, juste pour rebondir, les métiers du journalisme évoluent vers le fact-checking de plus en plus, ils produisent moins de contenu, et donc effectivement, pour aller dans le sens de ce que tu dis, c'est peut-être de plus en plus leur travail de vérifier les données, peut-être la source des photos comme pour le reste. Alors après, est-ce qu'on fait confiance aux médias ou pas? C'est une autre question. Qui en soulève d'autres. Juste une petite remarque aussi sur l'IA. C'est vrai qu'on se projette beaucoup, mais l'IA va multiplier par 3 les impacts du numérique dans les années à venir. Rien ne dit que ça soit soutenable. Alors peut-être que, je ne sais pas si c'est positif ou pas, mais rien ne dit que dans 10 ou 15 ans, on ait encore les moyens de faire de l'IA. Donc de toute façon, la question va peut-être se régler autrement.
Voilà. Qu'est-ce qui nous tuera en premier, quoi? C'est ça la question. Ouais, non, tout à fait.
Et du coup, pour rebondir effectivement sur ces idées de comment est-ce qu'on va réussir à déterminer si une image est vraie ou pas, sur des choses comme ça, c'est vrai qu'on en parle beaucoup de nos jours parce que c'est devenu généralisé, parce que tout le monde peut y accéder. Mais il faut bien se rendre compte que c'est des technologies, ça fait 20 ans qu'elles existent en fait. C'est pas nouveau. Il y a eu des milliers d'opportunités pour des États, pour même des acteurs non étatiques, d'utiliser ce genre de technologies à des fins nocives, on va dire, et ça n'est pas forcément arrivé. Peut-être que c'est arrivé, peut-être qu'on ne le sait pas, hein, mais voilà. Et du coup, c'est vrai qu'il y a une forme de pas de défaitisme, mais de se dire ça va être le truc qui va amener la fin du monde. Non, ça va peut-être en faire partie, mais c'est pas parce que ça, maintenant, parce qu'il y a ChatGPT-4o qui peut faire de la reconnaissance vocale, que d'un coup le monde va s'y mettre. C'est plus compliqué que ça.
Ouais, avec évidemment la facilité d'accès, mais c'est pour ça que ça me semble essentiel de revenir pour moi en tout cas au XVIIe siècle sur ces questions. C'est-à-dire que on a un autre problème qui est de ce que j'appelle prendre le symptôme pour la cause. En fait, il y a eu le problème de fausses images, d'images trafiquées, d'images manipulées. Encore une fois, c'est spectaculaire avec l'intelligence artificielle. Donc ça a des effets. Loin de moi l'idée de minimiser, outre les effets écologiques. Mais par contre, on est face à des problèmes qui existent déjà avant. Donc, que faire de ce constat que, indépendamment de la situation technologique, on se retrouve constamment face à cette même négociation, ou en tout cas une négociation du même ordre, sur l'information et le rapport à l'information, sur la légitimité ou l'illégitimité de l'information, sur une certaine culture? Est-ce que ça n'inviterait pas, tout en se posant la question très concrète des moyens, à se dire qu'est-ce qui se joue plus profondément, plus anthropologiquement peut-être, sur cette question. Et aussi, peut-être, alors avec un petit espoir, c'est de se dire, non pas tout va bien se passer parce que ça s'est bien passé jusqu'à présent, et encore, on va y survivre, mais plutôt de se dire, on a déjà vécu ça, on a non seulement un réservoir d'histoires, de narratives dans lequel aller à l'explorer. Là aussi, il y a un travail de bibliothèque par ailleurs, hein, de mémoire, d'archives. de se rappeler que ça a existé, de se rappeler qu'on a déjà répondu, et peut-être aussi moins de le voir comme un problème, mais de se demander quel est le lien avec, avec certaines situations politiques, au fond. Et de se dire, bah, au fond, c'est pas, on ne peut pas décorréler ça. On ne peut pas penser que bon, bah, voilà, la politique avançait, puis tout à coup, il y a ChatGPT qui apparaît, puis c'est ChatGPT le problème. ChatGPT est un intimement lié à toute une, tout un système social et politique. Donc, pour moi, là, l'importance de ne pas être trop présentéiste, même si nos problèmes présents sont urgents, et de se rappeler qu'on est quand même face à des choses qui sont vieilles, qui sont toujours les nôtres, qui nous appartiennent, et donc peut-être qu'on a des moyens aussi de les penser plus vite que de dire bon, bah, qu'est-ce qu'on fait face à ChatGPT en particulier.
Je me permets de rebondir parce qu'on avait évoqué ce matin la guerre, le retour de la guerre de haute intensité avec Eddie Noblet, et la désinformation prend une part majeure dans la guerre informationnelle qui se fait jour entre les différents États. Et c'est ce que vous mettez en évidence en fait dans votre article, c'est dans un contexte de guerre.
Toujours. Ouais, ce qui est frappant, c'est frappant que en fait, ces stratégies, quand les écrivains du pouvoir soient... pour James Ier, soit en particulier pour Louis XIV, quand les écrivains du pouvoir se mettent à travailler de concert pour façonner ce monde de l'information, c'est toujours quand il y a deux choses. Un, il y a une guerre ou en tout cas une situation de crise politique majeure. Et puis deux, il y a le constat que les moyens habituels pour contrôler cette information sont insuffisants. Donc il y a un royaume, par exemple, pour prendre le cas de Louis XIV, qui est confronté à une circulation des gazettes qui est immaîtrisable, le premier réflexe, c'est la censure. Le premier réflexe, c'est l'emprisonnement. Et ça, encore une fois, c'est des histoires qu'on a bien écrites parce que la censure, ça laisse des traces, ça laisse des documents. Donc ça, on a les archives. Mais une fois que la censure ne suffit plus, ben, on commence à voir des décrets qui condamnent pas seulement des édits, pardon, qui condamnent non seulement les producteurs de fausses informations, plutôt d'informations non autorisées pour le pouvoir, mais qui condamnent aussi les lecteurs. Et ça, c'est la deuxième phase, c'est-à-dire tenter de contrôler non pas seulement la circulation et la production, mais contrôler la consommation. Et c'est dans ce quoi on est aujourd'hui, c'est-à-dire que face à une masse de production, face aux réseaux sociaux, c'est de toute façon impossible de contrôler ni la production ni la circulation en tant que telle. C'est-à-dire tout est accessible. Ou alors, on est dans un système où on verrouille vraiment Internet, comme c'est le cas ailleurs. Mais voilà. Et donc, dans un cas de guerre, je veux dire, les assauts en termes d'information, ça fait 20 ans qu'on les subit. Hein, c'est pas... Mais là, c'est d'autant plus violent en termes de guerre. Quand on est dans ce contexte-là, qu'est-ce qui nous reste sinon d'essayer de contrôler l'information par des... Alors aujourd'hui, autrefois par décret, par discours au théâtre, par tentative de façonner la culture de l'information, aujourd'hui par des algorithmes, par une déferlante d'information ou au contraire par une éducation aux médias et par une tentative de s'extraire de cette masse d'informations. Mais en fait, on est dans cette espèce de troisième étape, après le contrôle des moyens de production, après le contrôle des moyens de reproduction, on arrive au contrôle des moyens de consommation, des pratiques de consommation. Et vraiment, la guerre a quelque chose de fondamentalement lié à ça.
Ouais. Juste d'intervenir rapidement, ce qui est assez prodigieux avec la désinformation, c'est l'imagination. On n'a pas évoqué les opérations doppelganger. Le mot doppelganger signifie sosie. Alors ça rappelle des contes pour enfants, etc. Mais c'est aussi la capacité à... transformer des contenus qui font semblant d'être ce qu'ils étaient. Enfin, donc on a, par exemple, on pourrait tout à fait avoir des informations qui viennent d'une source faisant autorité, néanmoins, les contenus sont transformés pour diffuser des fausses informations, tout en ayant, en fait, tout en étant supportés sur des images de personnes faisant autorité. Et ce sont des opérations qu'on appelle doppelganger. Voilà.
Et c'est pas, merci beaucoup, c'est pas pour rien, encore une fois, qu'au XVIIe siècle, la littérature a un rôle majeur là-dedans. En fait, on est face à des questions qui sont... vous avez dit le mot l'imagination, Voilà, je veux dire, on est en fait dans les phénomènes qui sont profondément narratifs, où on se raconte des histoires, où on fait confiance à des personnes et plutôt que d'autres, on fait confiance à des personnages plutôt que d'autres. Et en fait, c'est là aussi que le retour à cette question de la littérature m'intéressait pour les dans cet article, c'est de se rendre compte aussi que en fait, là où la littérature s'est hyper spécialisée aujourd'hui, elle est au cœur de ces phénomènes. Je veux dire, ce qu'on croit, c'est un récit vraisemblable. C'est les récits qu'on prend pour vraisemblable. Et qui fait les récits, sinon ceux qu'on appelle aujourd'hui la littérature. Donc cette espèce de... c'est quelque chose qui me gêne par rapport à mon propre champ, cette mise à l'écart volontaire, bon, depuis les années 80, d'un champ qui dit non, mais nos spécialités, c'est en gros les grands textes et faire des commentaires de textes. C'est dommage, parce qu'en fait, la littérature a des outils pour parler de ces choses avec d'autres, avec les historiens, avec Infocom, avec les bibliothécaires, avec tout le monde. Et c'est un débat qui doit se mener à plusieurs parce que c'est un phénomène total. Le doppelganger, c'est de l'image, c'est de l'informatique, c'est de la narration, c'est toute une série de choses. Et il y a besoin d'une approche interdisciplinaire sur ces questions. Ouais, merci beaucoup.
Si vous n'avez pas d'autres questions, des remarques. Oui, madame.
Oui, merci pour votre intervention. Vous prêchez une convaincue dans le domaine et c'est vraiment triste, surtout de voir de la part des personnes qui fréquentent les bibliothèques, d'entendre ces discours que c'est l'intelligence artificielle qui est diabolisée ou les réseaux sociaux. C'est vraiment pas effectivement le problème de base. Du coup, j'en ai oublié ma question.
Excusez-moi, ça va vous
je suis
revenir.
Fatiguée. J'ai oublié la question du coup. Bon, merci pour votre intervention.
Bon, si vous n'avez pas d'autres questions, d'autres remarques, je pense qu'on peut remercier chaleureusement Christophe Chuet.
Merci beaucoup. Merci.
Pour ce dialogue devenu entretien. Donc, merci pour ce brio avec laquelle vous avez répondu aux questions que je posais normalement aux deux, à la fois Suzanne et Christophe. Donc, je remercie Suzanne également en même temps, puisqu'elle devait également participer en tant que telle. Donc, je vous invite à lire les deux numéros de balisage consacrés à la désinformation, le numéro 7, le numéro 8. Vous tapez... balisage, donc c'est sur Open Edition et c'est la revue de recherche de l'ENSIM.
Accessible gratuitement. Accessible en ligne.
Gratuitement, oui, bien sûr.
Merci voilà. Beaucoup. Merci, bah, merci encore merci une beaucoup. Fois. Oui, c'était merci. Passionnant.